ToraBox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un enseignement de Madame Vanessa Benzaken. Bonne écoute et bon limoud.
Ce qui est très important de retenir, c'est que la perception du parent pour l'enfant, qu'il soit fort ou qu'il soit faible, on a dit, c'est qu'il soit stable, cohérent dans ses décisions ou le contraire, oui. Mais c'est exclusivement dans sa relation à lui. C'est-à-dire que si tant est que le parent, il a un grand mahamat social, que c'est un roche collèle ou un roche quelque chose, ouais, pour l'enfant, ça n'a strictement aucune incidence, aucune espèce de valeur. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que la position sociale a une influence sur l'enfant, que si son parent, il a une grande position sociale, ça va faire quelque chose par rapport à l'impression que ça laisse sur l'enfant. En aucune manière. L'enfant perçoit son parent dans sa relation exclusive à lui. Ce qu'on appelle la perception égocentrique, si vous voulez les termes académiques, tfissa égocentrique, c'est-à-dire que ce qui se rapporte à lui. Donc s'il se rapporte à lui, c'est ma relation à moi, à papa, à moi, à maman. D'accord ? Alors il nous dit, quelles sont, maintenant on va essayer de regarder les implications à court, moyen et long terme de l'absence de discipline ou de la présence de discipline. Il nous dit, comment s'acquiert la force de volonté ? Certains parents, ils parlent de leur adolescent, souvent c'est les adolescents, il ne se prend pas en main, il ne va jamais au bout de ce qu'il fait, il commence et il ne termine pas. Vous connaissez ce genre d'argument ou ça vous dit quelque chose? Non, qu'on ne connaisse pas, je l'en ai dit, mais ça veut dire que c'est dans l'air ambiant, ouais. Il n'est pas ikvi, voilà le mot qui manque à notre génération. Il n'est pas ikvi, il n'est pas régulier, il n'a pas de atmada. Regardez les mots atmada, ikvi, ou tous ces mots-là en français que je traduirais par la constance, la régularité. Ce sont les mots qui font cruellement défaut à notre génération. Makara, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ils étaient plus ikvi avant, oui, pourquoi? C'est l'abstraction de la discipline qui a donné cette résultante. Alors on va expliquer. Il nous dit, la faculté d'autodiscipline est la conséquence directe de la discipline reçue à la maison dans le creuset éducatif. C'est-à-dire que qu'un individu ait de l'autodiscipline ou pas, c'est le résultat direct s'il a eu de la discipline ou pas dans son foyer de départ. Commencez pas à regarder par en haut et vous dire « Ah, je comprends maintenant ». Non, parce que nos parents aussi, ils ont eu leurs parents et ainsi de suite jusqu'à Adam Rishon. Donc on ne va pas pouvoir faire une divia ici et ce n'est pas du tout notre but. C'est juste pour essayer de comprendre à quel point pour nous parents, on doit se réveiller à la chose, on doit se rendre compte de l'enjeu extraordinaire qui est là-bas. La volonté, l'autodiscipline, la persévérance, oui, chez l'adulte, ça découle de ce que cet adulte, il a été familiarisé très tôt à vivre dans un cadre où il y avait des règles stables et fixes. Ces règles ne changent pas, vous comprenez? Lorsqu'on lui a dit non pour la petite voiture, ou non pour la mousse au chocolat, ou la fogne date, lorsqu'on lui a dit non, le non, il est resté un non. Donc dans ses structures à lui, sa perception du monde et de la vie, elles sont conformes à ce modèle. Donc il a de l'autodiscipline. Lorsqu'il a décidé une chose, il va au bout. Il ne va pas décider, puis changer d'avis, puis j'ai commencé, mais il va dans tous les sens. Il nous dit, dès l'enfance, cet individu s'est habitué, il s'est exercé à gérer, à dominer ses pulsions, à concéder sans être frustré. C'est ça la merveille des merveilles. Nous, moi et les autres, quand on doit concéder, quand on doit faire des efforts, on sent qu'il faut dépasser une certaine frustration, c'est une itgabrout. Pour un individu comme celui-là qui sort, disons, il y a eu de la discipline, il n'y a même pas de pétard, il n'y a même pas de fissure dans ses structures mentales pour réfléchir que oui, non, non, oui. Il n'a même pas de combat. C'est une évidence. Si on a dit, on doit le faire. Chez cet individu, si on peut dire ça en un mot, en deux mots, les mots engagent. En hébreu, mila mechayevet. Chez lui, les mots engagent. S'il a dit, il le fait. Comme à Kadosh Baruch Hu, Omer ve'ose. Il a dit, il le fait. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il a été habitué dès l'enfance à vivre dans des normes comme celle-là. Une décision est la même jusqu'au bout. Certains, aujourd'hui, pourraient interpréter ça comme une forme d'esprit borné. Moi, je sais que je voyais ça comme ça avant. Je me disais, mais c'est borné, c'est limité, c'est ennuyeux, c'est rabat-joie. Et je me rends compte à quel point Moi qui suis issue d'un foyer où il n'y avait justement pas spécifiquement l'autorité, il y avait beaucoup la psychologie moderne chez nous, mes parents sont très jeunes. Donc il y avait beaucoup toutes ces choses-là. Je vois comme je dois me battre aujourd'hui, me battre pour maintenir mes décisions jusqu'au bout. Pour maintenir, j'ai pris sur moi une certaine chose pour aller jusqu'au bout. Je dois me battre. Maintenant, cette bataille, elle a tout son sahar bachamaim, c'est pas le problème. Mais je vois d'autres individus dans mon entourage proche qui, eux, ont grandi dans une maison où il y avait des règles et de la discipline. Marocain, pardon, je n'ai rien dit. Et alors, ces gens-là, chez Ibrahim, il n'y a pas de bataille. Ils ont dit, ils le font. Le sens du devoir, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, il se lève à l'heure, à la tefila. Qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, il a dit, il est malade, il se lève, il va. C'est des attitudes de vie, pour moi, qui étaient nouvelles, je m'excuse, mais pour certains qui étaient des acquis dans leurs mains. Eh, ma filou, il khamim, il se bagarre même pas contre un yetzerara ici. Et pour d'autres, c'est une bataille de tous les jours. Maintenant, encore une fois, dans la Avodat Hashem, il n'y a jamais de comparaison. Akadosh Baruch Hu ne compare jamais celui-là avec celui-là. Vous êtes au courant de ça, oui? Après 120 ans, chacun il est étudié, c'est un cas dossier personnel. On ne dit pas, tu as fait mieux, tu as fait moins bien. Ça, c'est dans la société grecque. C'est pas la société juive. La société juive, c'est chacun, il est Adam Bifne Atzmo. Il est un, unique dans la création. Ses empreintes digitales sont uniques. Tout est unique. Vous allez voir plein de remazim dans la nature. On est unique. Donc l'évaluation de cet homme-là, elle est unique aussi. C'est jamais pour faire des comparaisons. Mais on peut apprendre des autres. On peut apprendre d'autres modèles qui sont plus grands. C'est pas pour nous écraser, pour nous dire « Ah, ils sont tellement extraordinaires, et moi ?» Non, non, non. Toi, les fonds de Sahara, Agra, ton Sahara, il sera à la mesure de tes efforts. Si c'est dur, si tu n'es pas venu avec ça, tu n'es pas venu avec ces outils-là, Kadosh Baruch Hu, il va prendre en compte cette chose-là. Et le moindre petit effort que tu vas faire dans ce domaine, il vaut 48 carats. C'est très important de toujours faire le clair dans ces choses. Par contre, celui qui a déjà ça, il a un travail ailleurs. Mais nous, parents, est-ce qu'on n'a pas le devoir de faire de toutes nos forces de donner ce cli extraordinaire aux enfants? Si on comprend que l'enfant, il va exploiter sa vie comment? Qu'est-ce que c'est la réussite aux yeux de la Torah? Mazé atzlacha b'mabat Torani. C'est quoi? Je vous invite à répondre. C'est quoi la réussite? Ouvrir 8 magasins, c'est quoi la réussite? Il a fait. Dans le Lachon du Ramchal, Leotzi mina koach el apoal. Sortir les potentialités en réel. Ça s'appelle réussir aux yeux de la Torah. Ça veut dire que tu ne pourras donc jamais savoir qui est réussi, parce que seul Akadosh Baruch Hu, il sait quels sont les potentiels de celui-là et de celle-là. Mais on ne peut pas savoir. Seul Akadosh Baruch Hu, il sait ça. On n'a pas à s'occuper de ça, nous. Nous, on doit s'occuper de nous. On a des potentiels, il faut les réaliser. Maintenant, je vais vous donner une série d'actions mathématiques. J'aime pas du tout les mathématiques, mais ici on va le faire comme ça. Quelle est la machine à exploitation des potentiels? Si on vient de comprendre que la réussite aux yeux de la Torah, c'est l'exploitation des potentiels, c'est quoi l'outil? C'est quoi la machine à exploitation des potentiels? Il serait intéressant pour nous de le savoir. L'autodiscipline. Sans autodiscipline, un ben Adam, il peut être bourré de kishronot, il peut être bourré de talent, et il peut être doué dans tout. S'il n'y a pas un vecteur central, une trajectoire qui le tient, une colonne vertébrale, qui s'appelle l'autodiscipline, tous ces kishronot et tous ces talents, ils peuvent partir dans tous les sens. Le Rav, il nous disait de façon très amusée, il nous disait, même si tu regardes dans le monde là-bas, chez les goyim bichlal, ils ont fait plein d'études de sociologie pour réfléchir qu'est-ce qu'ils ont tous les grands patrons, les avdil, nous on ne veut pas être des grands patrons, nous on veut être des grands dans la Avodat Hashem, mais Bonaguide, ils ont même étudié que même dans les Darkei Olam Hazeh, dans ce qui s'observe ici, sous le soleil, ils ont fait plein d'études au Japon, aux États-Unis, dans les pays industrialisés. Qui c'est les gens qui tiennent les entreprises, qui sont en haut de la chaîne sociale, Bonaguide Kaha? Et ils ont dressé un profil, une silhouette psychologique. Vous savez qui c'est là-bas? Ils ont tous un point commun. Il y en a des blancs, des noirs, des jaunes, des trucs, il y a tout. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont de l'autodiscipline. Pile et plein. Et en bas de la chaîne, plein de kishronim. Qu'est-ce que ça veut dire des kishronim? Plein de talentueux qui savent faire des tas de choses, que tout part comme un jet d'eau qui n'est pas contrôlé. Le jet d'eau est magnifique, mais il faut le... Tu veux qu'il aille à son... Vous comprenez? Moi, j'image beaucoup les choses. Tu veux qu'il aille au but, tu veux qu'il soit puissant. Il faut le cibler, il faut le concentrer. La première fois d'ailleurs que j'ai commencé à établir quelque chose, Bachaïm, dans la vie, c'est quand je me suis fixée sur Rabbi Jacobson. Au lieu de, j'allais à des tonnes de cours, des centaines de cours, j'aimais l'éducation, tout ça, j'étais à des tonnes de cours. Mais j'apprends ici, j'apprends là-bas, celle-là, elle contredit celui-là, celui-là, elle contredit. Pff, une salade, Metboucha, tu sais même plus que ce que tu dois penser. Mais quand j'ai commencé avec Rabbi Jacobson, que j'ai vu qu'ici, il y a quelque chose de méal, au-dessus de tout ce que j'ai pu entendre avant, j'ai dit, oh, là, cette fois, on va aller au bout. On ne va pas arrêter de se disperser dans tous les sens, on va aller au bout. Et des années, une année après une année, là, il y a quelque chose dans la main. Donc vous comprenez, si vous posez la question comment on a l'autodiscipline, c'est ce qu'on venait de dire avant. L'autodiscipline découle directement de la discipline reçue dans le creuset familial.
Moi, j'ai une là qui concerne cet aimant.
Il y a fait.
Et donc, pourtant, j'ai aucune autodiscipline.
Je ne pourrais en aucun cas répondre à une question comme ça là parce que je n'ai pas tout le tableau de la maison.
Oui, mais
Et la discipline, encore une fois, on va essayer de plus raffiner la définition parce que la discipline, c'est pas l'autoritarisme, c'est anéloïda. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit dans votre foyer, mais
je commence à penser dans n'importe quel domaine.
Je peux se serrer la main, vous savez, j'ai tout à fait ce prototype au départ que j'ai un petit peu retravaillé. Tout à fait.
Par contre, j'ai choisi le nom, j'en ai deux ou trois. Et ça que...
Et c'est Chok Veloyav.
Mais il y a beaucoup trop de oui.
Qui est trop de oui, c'est pas grave. Ce qui est embêtant, c'est se rétracter.
Je pense que le oui que j'ai, que le débordement d'amour que j'ai dans mon enfance, bah, ça a étouffé la discipline, même si un an c'était bien.
D'accord, ok, d'accord. Là, maintenant, je comprends mieux votre question. D'accord. Donc c'était un rééquilibrage. Il y avait un équilibrage. Non, c'est une très bonne chose l'amour. L'amour, il faut en donner à volonté. Il n'y a pas de limitation. Le Rav, il a dit une fois en riant. Certaines mères, elles disent mais combien d'amour, parce que c'était un autre cours. Hein, mais c'est pas grave, je vous le rentre ici. Combien d'amour il faut donner aux enfants. Il dit pour que tu saches quand c'est assez, il faut que l'enfant il te dise dai ima dai ratouvi dai dai. Laisse-moi tranquille. Ça veut dire que c'est bon, il a ça. Donc rassurez-vous, là je commence par la discipline parce que le Rav il nous a donné cette aura de faire d'abord la discipline. Mais quand on, si on fait, s'il y a cette occasion de faire le cours sur l'affection, vous verrez que ça déborde de tous les côtés. En Shumbay, les rattachés, chez Niske. On disait donc que la discipline qui est reçue à la maison, la discipline, pas l'autoritarisme, pas la domination, pas les cris, pas les trucs, rien de tout ça. La stabilité dans les règles et la cohérence du parent. Tout ça, de réussir. D'accord ? Maintenant, j'avais fait un autre lien de cause à effet. Où est-il donc ? Je vais vous le dire avant. Mais voilà, il est là. Qu'est-ce que c'est l'autodiscipline, mesdames ? Ce soir, c'est des rachés prakim, ce qu'on appelle. C'est des choses que je détaille dès beaucoup de temps. Mais rachés prakim, on donne des définitions, des axiomes, des règles, des points de repère. Dans le temps que nous avons. Qu'est-ce que c'est l'autodiscipline, mesdames ? Si je devais définir ça, c'est quoi ? Le Rav, il nous donne une définition très très simple qui va recentrer tout. Il dit « Zeh itna'agut shenigzeret me'achlatot kodmot ». C'est un comportement qui est dicté par des décisions antérieures. Maza Omer, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ? Ça veut dire que mon comportement maintenant, il est dicté par des décisions que j'ai prises et il forme à des décisions que j'ai prises avant. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai dit, je dois me lever à 6 heures. Et ça, c'est la décision antérieure. Le lendemain matin, Darka, ce matin, il fait couvert. Ah, bah, tu vois, t'as pas envie de te lever. Et en plus, t'as mal dormi et t'es fatigué. 6 heures, bip, bip, ça sonne. Il y a deux façons de réagir ici. Celui qui a de l'autodiscipline, il a dit 6 heures, il se lève. Celui qui en manque, ou qui doit travailler pour l'améliorer, on va raffiner, il va dire « Update !» On revoit les fichiers là. J'ai dit ça hier, parce que hier j'étais en forme et que j'avais de bonnes dispositions, et eh bien je vais le faire. Mais ce matin, franchement, ce matin, IFCHAR, update. Il faut revoir. Donc c'est quoi ? Mon comportement maintenant, il est dicté par une décision renouvelée, par une décision qui a rechangé. Donc c'était quoi l'autodiscipline ? C'était tout simplement un comportement qui est systématiquement ou pratiquement systématiquement dicté par des décisions antérieures et qui sera toujours conforme aux décisions antérieures. Vous avez compris, c'est très simple en réalité. Oui. Maintenant, comment on va faire la distinction entre autodiscipline et rigidité ? Moi, je suis tout le contraire de la rigidité, mais Yesh d'avoir kazé. Quelle est la différence? Ça, c'est aussi un autre problème. Effectivement, il faut savoir se connaître, il faut se donner des objectifs. Et lorsqu'on a réussi nos objectifs ou qu'on est en chemin, il faut avoir de la satisfaction de ça. C'est le carburant qui va nous permettre d'avancer. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais... Voilà, la différence entre rigidité et autodiscipline. Il y a une très, très, très grande différence. Alors, c'est très simple, c'est pareil, c'est axiomatique ce que je vous dis ce soir. C'est très, très résumé. Et l'autodiscipline, elle s'attache à l'objectif. La rigidité, elle s'attache aux moyens. Est-ce que je vous parle encore de quelque chose ou c'est pas encore clair? Je recommence. L'autodiscipline s'attache à l'objectif, aux objectifs. La rigidité s'attache aux moyens. Je vais vous prendre un exemple très simple qui va éclaircir toute cette grande phrase caverneuse. Quelqu'un décide de faire de la marche pour faire ishtadlout, d'être en bonne santé. Ce n'est qu'une ishtadlout, évidemment. Le moyen, c'est quoi? La marche. L'objectif, c'est quoi? Faire ishtadlout, d'être en bonne santé. Aujourd'hui, il neige. Il neige à Bnei Brak ou... Parce que nous, on a de la neige à Yerushalayim. Je ne sais pas si vous n'avez pas ça, vous. Il faut venir à Yerushalayim. Alors, à Yerushalayim, nous avons de la neige de temps en temps, ce qui est merveilleux. Et il neige ce jour-là. Et il neige vraiment. Je ne parle pas de petits flocons. Oui. Marche, on ne peut pas marcher. Enfin, c'est difficile de marcher. L'autodiscipliné n'ira pas marcher ce jour-là. Tandis que le rigide, il ira marcher ce jour-là. Quelle est la différence entre ça et ça? Lui, il s'est attaché aux moyens. J'irai marcher coûte que coûte. Il prend la pluie, la neige sur la tête, il marche. Maintenant, l'autre côté, l'autodiscipliné, c'est le bon équilibre. Pourquoi? Parce que lorsque la situation contredit l'objectif, je suis capable de m'assouplir et de changer de moyens. Pourquoi? Parce que si je vais marcher dans la neige, ce n'est pas tellement favorable pour maintenir une bonne santé, a priori. On peut prendre froid. Vous avez compris l'idée? C'est le Kouach Haratzon. Mais ce Kouach Haratzon, quand j'avais posé la question il y a quelques années dans un groupe, je dis, Mazé Kouach Haratzon, beaucoup de réponses sont venues, et dont beaucoup sont venues, c'est l'enthousiasme. Alors il nous dit, le Rav, il nous redescend tout de suite, il dit, combien de temps durera l'enthousiasme? Admachar Baboker? Jusqu'à demain matin. Il dit, c'est l'autodiscipline qui te tient du début à la fin d'un projet. Et c'est cette autodiscipline que peut-être certains d'entre nous manquent aujourd'hui et qui nous dérange pour l'exploitation de nos potentiels. Ne pas exploiter ses potentiels, c'est inviter la frustration. Parce que quand on n'exploite pas ses potentiels, on n'est pas bien. On est frustré, on est nerveux, on est amer. Tout ça vient de là. Donc pour les enfants, pour eux, on veut qu'ils sachent, qu'ils puissent exploiter leur potentiel. Il faut les formater dès le début à vivre dans une serre. Et cette serre-là, c'est une serre où les règles, elles sont fixes, pas bornées, pas idiotes. C'est pour ça qu'il faut bien penser à quelles règles. Il ne faut pas sortir des règles à tort et à travers. Qu'elles sont fixes, c'est sécurisant, on s'y sent bien. Et je vais arriver à un autre principe qui est très, très important. C'est que nous, ce qui nous dérange finalement, c'est de frustrer l'enfant. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on lui cède, ou quand on se ramollit, ou quand on change de cap, qu'est-ce qui nous dérange là-bas? On ne veut pas frustrer l'enfant. Souvent, c'est ça.
On ne veut pas rentrer dans le conflit.
Oui, on veut aussi le...
Nahon. Mais je veux éviter le conflit.
Disons que, plus à la fin, j'ai titré comme ça, en disant que les deux écueils principaux, les deux choses qui nous dérangent principalement, c'est que on veut satisfaire les enfants à tout prix. Et c'est déjà un faux objectif, il faut déjà démystifier ce faux objectif. On ne peut pas satisfaire les enfants à tout prix, et ce n'est pas un objectif éducatif. On peut satisfaire le maximum de fois les enfants, mais il y aura des fois où on ne peut pas et on ne doit pas. D'accord? C'est quoi l'éducation? C'est satisfaire les enfants à tout prix, si vous prenez le motto, le slogan aujourd'hui, c'est ça, l'enfant roi. Mais ce n'est pas ça l'objectif de l'éducation. L'objectif de l'éducation est de donner à l'enfant des kelim pour savoir être mitmoded b'chaim b'tzura nechona. Donner, excusez-moi, je fais de l'hébreu, mais donner l'enfant des pour savoir affronter, surmonter, faire les bons choix dans la vie. Ce n'est pas satisfaire l'enfant à tout prix, c'est une publicité étrangère qui est rentrée dans nos oreilles, et bien plus que dans nos oreilles. Donc vouloir satisfaire l'enfant à tout prix va nous mettre en problème. Parce qu'on ne peut pas satisfaire. Mais bien sûr, mais vous ne connaissez pas avec mes enfants, je crois. Moi, la mère couveuse.
C'est de les voir heureux.
Mais bien sûr qu'on veut les voir heureux. Et il faut qu'ils soient heureux. Et vous allez voir qu'en faisant une discipline saine, ils seront très heureux. Très heureux. Mais simplement, il faut replacer les définitions à leur place, les objectifs à leur place. Nous sommes brouillés, je vous dis, le principal problème, ce n'est pas qu'on ne sait pas y faire. C'est que nos objectifs sont brouillés. Alors finalement, tu ne sais pas où tu avances. Tu avances sur une route où il y a le brouillard. Ici, le Rav Yaakov, il a une clarté, une concision, une clarté qui est impressionnante. Il te redonne tous les repères à leur place. Donc, ça, c'est une première chose qui nous dérange, qu'on veut satisfaire à tout prix. Et la deuxième chose qui nous dérange, c'est effectivement qu'on a du mal à supporter les cris et les affrontements. Voilà. Ou alors les deux. D'accord ? Maintenant, si ce qui nous dérange, effectivement, c'est qu'on ne veut pas frustrer l'enfant, alors on doit apprendre une chose très importante. C'est que, encore une fois, une règle un peu axiomatique, je m'excuse, comme on fait court, je suis obligée de très sédariser, ça n'existe pas, condenser. Je fais beaucoup de ridouches académiques dans la langue. Alors, il faut apprendre cela. C'est que, pour l'enfant, le taux de frustration est proportionnel au taux de stabilité ou d'instabilité des règles. Vous allez me dire, c'est quoi cette bête-là ? Je vais expliquer. Je vais tâcher d'expliquer. Plus les règles sont fixes, moins il y a de frustration. Vous savez pourquoi ? On en a une preuve. La nature. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde sécurisant pour ses créatures. Il y a des règles fixes. Le soleil, il ne se lève pas quand il a envie. Il se lève. Enfin, il se lève, vous comprenez, oui. Le mouvement des astres, il ne réfléchit pas si ça lui prend ou s'il n'a pas envie. La gravité terrestre, elle ne réfléchit pas si aujourd'hui ou demain, elle n'a pas envie. Il y a des règles de la nature qui sont d'une fixité immuable qui est impressionnante. Les atomes, les électrons, ça sera toujours 48 pour telle molécule et 49 pour telle molécule. Il n'y a pas, on ne joue pas ici. Comme il disait le Rav Einstein, Dieu ne joue pas au dé. C'est exactement ça. Les règles de la nature, elles sont carrées, mais au possible. Et il dit, et on a la faculté de s'habituer à ce qui est stable. C'est-à-dire que le petit, quand il est encore petit, il se cogne sur un mur, il pleure, il n'est pas content. Il se cogne une fois, il se cogne deux fois. Au bout d'un moment, il comprend, le mur, c'est dur. J'enregistre l'information, je ne m'y colle pas. Qu'il est frustré que le mur, il est dur. L'amelant, il n'est jamais frustré de ça. Est-ce que l'enfant, il est frustré qu'il ne peut pas voler ? Bon, à part des cas pathologiques, elle le date. Mais en principe, nous, adultes, on n'est pas frustrés, on vit dans ça. On sait que demain, ça sera la même chose. Avant-hier, c'était pareil. Plus les règles sont fixes, moins elles sont frustrantes. Et c'est pour ça que dans le domaine social, c'est très frustrant, parce que les êtres humains sont des créatures, des produits évolutifs, vous comprenez ? Ils changent, ils ont des humeurs, ils ont des choses. C'est difficile de composer avec cette énergie humaine qui s'appelle l'être humain. Mais avec les règles de la nature, c'est facile. On s'habitue aux choses. Maintenant, pourquoi, quand la règle elle est instable, c'est une source de frustration extraordinaire pour l'enfant ? Et c'est pour ça qu'il multiplie les crises de colère quand les règles sont instables. Pourquoi ? C'est très simple. Mais parce que si l'enfant il a enregistré qu'une règle elle est fixe, rock velo y a avoir, que qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, c'est la même. Il comprend que ce n'est pas sa responsabilité ou son manque de talent qui a fait qu'il n'a pas obtenu la chose. Zehan etonim, ce qu'on dit en hébreu, ce sont les données. Mais lorsqu'une fois on lui dit oui, une fois on lui dit non, mais quand on lui dit non, il est terriblement en colère parce qu'il dit t'as mal joué. Tu ne sais pas y faire. L'autre fois, tu as réussi. Cette fois, tu n'as pas dû faire comme il faut. Donc, il se remet, lui, en question. Donc, c'est pour lui une source de frustration gigantesque. C'est pour ça qu'on revient à notre principe de base, que le taux de frustration chez l'enfant, il est proportionnel au taux de stabilité ou d'instabilité des règles. Tout ça, ce sont des condensés que je fais vraiment pour donner le maximum de principes, oui. Et le Rav, il nous disait, pour le type d'individu qui n'a pas grandi effectivement dans un creuset où il y avait des règles et de la fixité, eh bien, sa manière de fonctionner avec ses parents, c'est-à-dire qu'il sait qu'on peut obtenir des changements d'avis, etc., eh bien, il va continuer de l'appliquer dans sa propre autogestion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a dit, il ne touche plus au chocolat, et demain, c'est Rosh Chodesh. Quand même, hein, pas être borné. Et c'est pour ça qu'il va appliquer dans sa propre autogestion une flexibilité non souhaitable. Vous avez compris maintenant comment les liens de cause à effet se font, c'est tout à fait incroyable. Donc il dit, pour un individu comme celui-là, on peut décider et se rétracter. On peut entamer une démarche, mais la force de détermination n'étant pas là, on ne va pas au bout. On peut se refabriquer de nouvelles règles et de nouvelles décisions en fonction de l'envie, en fonction de l'humeur. Vous comprenez aussi pourquoi les changements d'humeur sont très caractéristiques de notre génération ? Ils sont également le résultat, la résultante de l'abstra, la discipline. C'est tout à fait incroyable. Donc, pour conclure sur les enjeux, on n'a pas fini du tout, mais c'est pour conclure sur les enjeux. Si je disais en une phrase, être convaincu pour mettre en place. Si nous, parents, on n'est pas convaincus du bien fondé de la chose, on n'a aucune chance de mettre en place de la discipline. Tout ce premier parti que moi je fais en groupe de femmes, sur 2 et 3 séances d'1h30, rien que sur cette petite partie-là, pour sensibiliser les cœurs, pour sensibiliser à combien c'est... Atlomé, bien, combien c'est important. Tu crois que tu fais un chesed en cédant, c'est pas un chesed, c'est exactement le contraire. Combien tu peux donner à l'enfant pour sa construction future, etc. On n'a pas encore parlé de la Avodat Hashem. C'est inimaginable, d'accord ? Donc pour nous, il faut être convaincu, il faut y croire. Il faut également croire dans notre capacité de discipliner. Bien souvent, les problèmes commencent quand le parent est sûr qu'on ne l'écoutera pas, pense qu'il n'a pas de caractère, pense que ça ne marchera pas. Tout ça, il faut qu'il élimine ses fausses croyances. Si Akadosh Baruch Hu, il t'a donné à toi, ses enfants, c'est que tu es la meilleure mère pour eux et que tu as tous les kélim pour ça.
Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, 3 enseignements de judaïsme, par des rabbanim différents, sur d'autres sujets variés, et sous toutes les formes, audio, vidéo, ou sous forme d'articles. À bientôt.